Merci d'être là en cette heure matinale du samedi matin. Nous allons avoir une petite conférence autour de la fantasy, une littérature cartographiée. C'est vrai que dans de nombreux romans de fantasy, on a des cartes au début. Si vous avez lu Tolkien comme moi, ado, vous avez peut-être suivi le chemin de Frodon sur la carte qu'il y avait au début du Seigneur des Anneaux. On a un panel d'auteurs avec nous et on va leur demander s'ils utilisent des cartes pour leur travail, s'ils en mettent ou s'ils n'en mettent pas et pour quelles raisons. Le sous-titre de cette conférence étant la multiplication des cartes en fantasy est-elle indispensable ou alors est-ce qu'elle limite le genre au seul voyage initiatique ? Voilà. Nous avons trois auteurs autour de la table. Nous attendons encore Justine Niogret qui ne saurait tarder. Avec notamment donc juste à ma gauche Michel Robert qui vient de sortir Balafré aux éditions du Fleuve Noir mais qui travaille aussi sur le cycle de l'Ange du Chaos. Donc voilà, qui n'a pas de carte au début de ses livres, mais on va lui demander pourquoi et on va lui demander s'il s'en sert. Juste à côté de lui, Brandon Sanderson qui a fait notamment L'Empire Ultime, Fils des Brumes, un cycle chez Orbit, mais aussi Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires chez Mango, qui lui utilise des cartes. Et puis juste à côté de lui, Jérôme Noirez, qui notamment, je vais retrouver mes petites fiches, a fait notamment Fleur de Dragon, par exemple, et on va lui demander, ou Leçon d'un monde fluctuant. Alors parfois il met des cartes, parfois il n'en met pas. Donc on va lui demander s'il s'en sert et pour quelles raisons. Alors peut-être on va poser d'abord la question à Brandon Sanderson. Brandon Sanderson parle anglais, donc si vous avez des soucis de compréhension, il y a des petits boîtiers avec des casques juste sur votre droite. Brandon Sanderson, vous mettez des cartes au début de vos livres, pour quelles raisons ?
J'écris de la fantasy épique et je pense que l'une des choses qu'essaye de faire la fantasy, c'est de créer un concept d'immersion. D'immersion, ça veut dire lorsque vous prenez ce livre, vous essayez vraiment de faire beaucoup de travail pour que vous pensiez que, à la lecture du livre, ce n'est pas là une histoire. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans un lieu qui existe. Et lorsque vous lisez toutes ces pages, vous voulez que ces personnages soient vivants. Et donc, les histoires sont l'histoire de personnages. Mais si on utilise des choses comme des cartes, bien sûr, et là, c'est pour The Way of Kings, par exemple, qui est mon dernier roman qui a été publié aux États-Unis et qui devrait arriver bientôt en France, peut-être l'année prochaine ou plus tard, je ne sais pas. Donc, ça va sortir en 2012. Et la carte, en fait, c'est un outil. C'est un des outils que l'on utilise pour faire que le monde soit encore plus réel. Et lorsque vous ouvrez le livre, que vous voyez cette carte, alors vous voyez une réalité. Ça fait partie de la raison pour laquelle j'utilise des cartes. Une autre des raisons principales, c'est parce que la fantasy a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage assez raide, en fait. Donc, vous apprenez tellement de choses, de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouvelles physiques, en fait, de nouveaux personnages, de nouveaux noms, de nouvelles langues. Et donc, en ayant une visualisation de tout ceci, eh bien, cela vous permet d'identifier localisation des différents royaumes. Donc, ça diminue un petit peu cette courbe d'apprentissage. Ça vous permet de rentrer un peu plus facilement dans le livre. Oui, tout à fait. Mon sous-genre, si je peux dire, a été créé en fait par Tolkien. Et Tolkien a utilisé des cartes. Ce que j'adore chez Tolkien, c'est que ce sont des cartes du monde. Il y a beaucoup de romans de fantasy où on a donc une carte, mais sans contexte. Mais les cartes de Tolkien, en fait, on voit vraiment les vallées, les montagnes et autres, là où se trouvent les personnages. C'est vraiment les cartes que les personnages utilisent, ce qui permet de rendre une certaine réalité à l'histoire. Bon, on va en parler plus, je suis sûr. Mais si vous regardez les cartes que moi j'utilise, eh bien on essaye de faire comme la carte que vous avez à l'écran ici, afin qu'elle renforce ce sentiment de réalisme. Le sentiment que l'on a, voilà, c'est une carte d'un endroit où il se passe des choses. Et c'est une carte, un endroit qui a sa propre histoire.
Alors on va poser la même question à Jérôme Norez. Simplement, j'indique juste que c'est une carte qui est projetée par Brandon Sanderson. C'est dans l'univers de Fils des Brumes.
It's in the Way of Kings. I'll get the... C'est dans The Way of Kings.
Jérôme, parfois tu mets des cartes dans certains moments et parfois pas. Comment ça se fait ?
J'ai mis quelques cartes dans des livres récents, mais là en l'occurrence c'est pour la simple et bonne raison que ce sont des livres jeunesse, donc qui s'adressent à des lecteurs qui ont 5 de moyenne en géographie et qui ont besoin qu'on leur situe où se trouve le Japon, où se trouve la Caroline du Sud. Donc là les cartes elles ont une fonction pédagogique, principalement. Alors c'est vrai que dans Ferry pour les ténèbres, il me semble qu'il y a une carte. Est-ce que c'était absolument une volonté de ma part qu'il y ait une carte dans le bouquin pour faire comme dans Tolkien j'en doute fort. Je crois que j'avais établi une carte à ce moment-là, moi, pour mon travail, pour m'y retrouver en tant qu'auteur, parce que mes personnages bougeaient beaucoup. Et pour être cohérent, simplement, quand je les fais partir à l'ouest, qu'ils arrivent bien sur la côte ouest et pas sur la côte est, j'avais besoin d'une carte pour m'y retrouver. Est-ce que cette carte était fondamentalement utile pour les lecteurs ? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a deux... Il y a la carte physique, celle qu'on va dessiner dans un bouquin, et puis il y a la carte mentale qui peut être sous-jacente au livre sans qu'on ait une carte physique, une carte graphique. Alors c'est vrai que moi par contre je suis un auteur qui a une vision cartographique des choses, j'aime les cartes, j'ai toujours aimé les cartes, je me suis toujours intéressé à la cartographie, et cette vision cartographique d'ailleurs elle est pas seulement à l'échelle d'un monde ou d'un pays, elle peut être sur des échelles beaucoup plus réduites. Il m'arrive de gribouiller des petits plans, d'un croisement de route, d'une piole, voilà, ça m'aide, ça me sert, et puis c'est un rapport aux choses. Et de toute façon, cette vision cartographique, je pense que depuis quelques temps, on l'a en permanence. Il n'y a pas très longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris l'avion, il n'y a pas très longtemps, je prends l'avion et c'est formidable. Maintenant, on suit son trajet en avion sur un Google Map. Donc on sait précisément en temps réel où se trouve l'avion, c'est-à-dire dans quel pays on va se crasher. Et ça, c'est quand même très stimulant. C'est-à-dire qu'on a en permanence une vision cartographique de la réalité. C'est qu'à ça, c'est quelque chose, il me semble, de relativement nouveau. Et puis après, on a les jeux vidéo aussi, hein, où la vision cartographique dans les jeux vidéo elle est omniprésente.
Ça veut dire que, je pense notamment à la carte du Japon, tu t'en es aussi servi, toi, pour travailler ?
Ah bien sûr, oui, c'est un outil de travail, oui, indéniablement. Et Google Maps est un super outil de travail aussi pour un écrivain, hein, surtout qu'on peut zoomer, c'est formidable. On voit où sont les routes, on voit où est chaque maison, c'est un outil dont je me sers, moi, oui.
Ça veut dire que pour ton roman, par exemple, Leçon d'un monde fluctuant, qui est pour le coup totalement... Enfin, ce serait peut-être difficile de faire une cartographie, mais toi, tu en as fait ?
J'ai fait une cartographie, oui, puisqu'il y a une partie de l'action qui se situe sur une île imaginaire. Donc j'ai dû vaguement, rapidement cartographier, pour pouvoir situer, pour avoir une situation cardinale quoi, de l'action. Mais voilà, c'est juste un outil.
Je vous propose d'applaudir Justine Niogret qui est là, qui arrive discrètement. Hey. Genre, on n'a rien vu. Bonjour Justine.
Pardon.
Et vous voyez, il pleut dehors. Même question pour toi, Michel. Alors du coup, dans tes livres, à toi, on ne trouve pas du tout de cartes.
Non.
Mais est-ce que tu t'en fais toi-même pour...
C'est vrai qu'une carte... c'est vrai qu'une carte, ça permet... je pense au lecteur de s'ancrer dans l'univers qu'on lui propose. Maintenant, moi, c'est vrai que j'en fais pas. D'abord, je pense que j'ai pas l'esprit configuré pour faire de jolies cartes. J'en ai pas besoin. Je pense que c'est pas indispensable. C'est complémentaire. Ça permet d'enrichir ce qu'on propose au lecteur, mais c'est, en tout cas, moi, j'en ai vraiment pas besoin. Les cartes, elles sont dans ma tête. Par contre, c'est vrai que je fais des croquis, par exemple pour mes scènes de combat qui sont plutôt chorégraphiées. À partir du moment où il y a un certain nombre de protagonistes, je suis obligé de faire des cartes ou plutôt des croquis pour bien découper l'action dans ma tête.
Tu fais presque un storyboard des combats.
Je sais pas, j'ai jamais vu de storyboard, mais en quelque sorte, je pense qu'on peut dire ça, oui.
Et donc, même sur l'Ange du Chaos, où il y a différents plans,
oui, il y a différents plans.
Tu t'es pas du tout fait de schéma particulier pour toi ?
Non, 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 pas du tout. Je te dis, c'est dans ma tête. C'est assez clair dans ma tête. Par contre, je suis infoutu de le sortir, parce que c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois demandé, que ce soit mon éditeur chez Mnemos ou mon éditeur au Fleuve Noir, on m'a demandé de faire des cartes, mais j'y arrive pas. Donc voilà.
Justine Niogré. Ouais.
Bonjour.
Il n'y a pas de cartes dans Chien du Home, tout du moins au début de Chien du Home. Pour quelle raison est-ce que toi tu en as fait pour travailler ton roman ?
Non, alors j'en ai pas fait du tout. En fait, je pense que je vais y arriver. La texture de Chien du Home, en fait, est relativement onirique. Et j'avais pas envie de fixer ça. Surtout que c'est dans une France imaginaire, une Bretagne imaginaire. Et je voulais pas placer des noms de villes, des repères réalistes ou trop réalistes et figer le récit dans vraiment une façon de raconter historique, en fait. Voilà.
C'est vrai que l'action se déplace relativement peu dans Chien du Home, mais est-ce que toi, tu t'es fait des croquis, des schémas
Pas du tout, et pour le livre sur lequel je travaille en ce moment, c'est vrai qu'il y a un très long voyage, et j'ai essayé de me faire des cartes, et en fait, je suis totalement, comme tu disais, infoutu de faire ça. C'est un travail à côté qui demande quand même une certaine connaissance de la géographie, des choses, etc. Donc non, j'ai pas réussi à les faire et j'ai pas non plus particulièrement creusé. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai essayé vraiment de travailler les paysages, la couleur des rocs qui sortent, etc., la couleur de la terre et tout ça. Donc pour rester sur plus une ambiance qu'une géographie fixe.
Brandon Sanderson, quand vous faites une carte, techniquement, comment vous faites ? Est-ce que c'est vous qui la faites ? Est-ce que c'est un illustrateur ? Comment ça se passe ?
Ça, c'est une bonne question. Ça dépend du livre, en fait. Pour certains livres, je fais le dessin moi-même et ensuite, je n'ai jamais publié, en fait, un roman avec mes propres cartes. Ça a toujours été fait par quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas, moi, très, très bon, hein, dans ce domaine. J'ai louer les services d'un illustrateur moi-même, que j'ai payé moi-même, parce que je voulais avoir donc quelque chose d'intéressant. Et alors là, vous avez un modèle dynamique du Julia 7. Si vous connaissez les mathématiques, c'est une fractale. Et j'ai rencontré en fait ceci dans l'une de mes études. Si vous pensez à la géographie, on peut décrire les côtes très bien avec des mathématiques et des fractales. Et ce que j'ai décidé de faire, et je l'ai vu, ça ressemble fortement à un continent. Hein. C'est une des scènes. Et j'ai commencé à travailler à partir de ceci dans ma tête, en prenant des notes. Et ensuite, j'ai décidé que je ne voulais pas publier mes propres dessins. Bon, j'en ai pas avec moi, là, je suis désolé. Mais je peux vous montrer la version finale. Et c'est ça. Donc voilà ce que j'ai pu faire pour les différents royaumes. Donc Julius a dessiné tout ça et a dessiné les continents, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé comme référence pour moi-même, pour mes récits. Et ensuite, en avançant dans le récit, donc j'ai travaillé avec un artiste qui a créé différentes incarnations de cette carte. Voilà, une que l'on a déjà utilisée, qui est la carte finale. Mais on a aussi décidé de faire quelque chose qui soit assez sympathique, une version sympathique pour The End Papers. Donc, au début et à la fin du livre, qui représentait en fait quelque chose de plus abstract, une version plus artistique du monde. C'est comme si c'était fait de pierre et d'argent. Et sur la couverture du livre, on l'a mis en couleur, avec un autre type de carte. Mes cartes ont tendance à avoir des systèmes magiques un peu complexes. j'y mets en fait aussi, bon là, ce n'est pas une carte géographique, c'est la carte de la magie. Comment les différentes magies et parties de la magie interagissent les unes avec les autres, les différents symboles. Donc vous voyez, cela c'est quelque chose que je fais dans bon nombre de mes livres. Si vous avez lu Le Fils des Brumes, il y a aussi une carte de ce genre qui, là, nous parle donc du système de magie, les différentes interactions. Ça ressemble en fait au tableau périodique hein, des différents éléments. Mais bon, j'aime beaucoup jouer avec le concept de la carte et en y incluant différentes versions d'une même carte. Et ça dépend bien sûr aussi de ce qui est important pour le livre lui-même.
Pas de manière comme ça, mais tout à l'heure, Jérôme parlait de cohérence. En termes de cartes, est-ce que parfois vos personnages n'ont pas fait certaines choses parce que du coup sur la carte ce n'était pas possible?
Oui, ça peut être possible. Et je sais que certains auteurs préfèrent ne pas utiliser de cartes du tout et je respecte tout à fait cette approche. Terry Pratchett a dit on ne peut pas cartographier l'imagination. Donc il ne met pas de cartes dans ses livres. Ça dépend vraiment du type d'histoire que vous essayez d'écrire. Alcatraz n'a pas de carte, par exemple. Ça ne serait pas approprié, parce que je pense que ceci limiterait en fait les frontières de notre imagination pour ce type de livre. Mais pour d'autres de mes livres, Mapic Fantasy par exemple, eh bien, nous cherchons un réalisme. Et là, pour ces livres, pour ces romans, la carte est une marque de réalisme. Et quelquefois, dans mon écriture, je pense que les limitations sont plus intéressantes, en fait. Elles peuvent vous forcer, ainsi que les personnages, les lecteurs à faire des liens afin d'avoir une meilleure histoire et dans certains cas, ça peut être pire bien sûr, mais ce que l'on peut faire aussi avec les cartes, vous avez ici une autre carte du The Way of Kings, on fait des cartes de différents styles, là vous avez une carte pour laquelle je vous ai dit, je veux que ce soit une représentation artistique, je ne veux pas que ce soit une carte réelle telle que une représentation de la ville, vraiment, comme aurait pu la peindre un artiste. Non. Sur cette carte, je ne mets pas de détails spécifiques sur la ville en disant, voilà, ça c'est ici, ça c'est là-bas, sauf, en fait, pour ce qui est assez général. Parce que ce n'est pas prévu pour ceci. C'est juste pour vous donner, en fait, une apparence de ce à quoi ressemble, ou pourrait ressembler la ville. Mais ça ne vous oblige pas à vous dire, voilà, ça c'est ici, ça c'est là, non. Parce que tout est fait par un artiste, tout simplement, qui vit dans un monde et qui peut faire des erreurs, voilà.
Avec deux types de cartes tout à l'heure, et notamment vis-à-vis du jeune public, puisque dans la dernière flèche, il n'y a pas de carte, justement. Est-ce que tu sens une demande de la part des jeunes qui lisent le livre?
Non, sincèrement, on ne m'a jamais exprimé une demande particulière sur la présence de cartes dans ces bouquins-là. Alors sur la dernière flèche, j'ai travaillé aussi avec une carte de Londres pour m'y retrouver. Alors, comme j'avais pas trouvé l'action se situe au XIIIe siècle, j'ai pas trouvé de carte d'époque. Donc j'ai utilisé une carte un peu anachronique, une carte Tudor. En gros, la morphologie n'avait pas considérablement changé. Mais finalement, au fur et à mesure de l'écriture, tu t'aperçois que tu te libères complètement de cette topographie historique et que finalement, elle compte pour peu. Dans l'action et tu n'en fais pas un usage. Quoi. À partir du moment où tu as bien placé la Tamise et les quelques portes de Londres, le truc fonctionne et puis voilà. Quoi.
Ouais, tu n'as pas besoin de limitation
Non, à ce degré-là, non. Mais d'un autre côté, moi, encore une fois, la cartographie, c'est un truc qui m'a toujours considérablement branché, à tel point que... Dans ma période j'emmerde le lecteur, j'ai eu une période j'emmerde le lecteur une dizaine d'années, où je faisais des trucs impubliables, à un moment j'utilisais une méthode de description même des lieux qui était purement cartographique, c'est-à-dire que la page du livre devenait pour moi un objet topographique. Et s'il y avait un arbre, je posais le mot arbre à l'endroit où se trouvait l'arbre. Voilà. Ça donnait. Mais d'ailleurs, c'est un de mes rêves, ce serait de faire un bouquin de fantasy qui se réduirait à des cartes. On n'aurait que des cartes. Alors des cartes générales, des cartes à l'échelle d'un pays, et puis des cartes extrêmement réduites, parce que ce qui est amusant, c'est que la carte, c'est pas seulement l'objet géographique, on peut le dépasser complètement. À cette période, donc, Fuck the Readers, j'avais créé un truc qui s'appelait l'école de cartographie non objective. Oui, j'étais aussi un peu situationniste, etc. Le truc, c'était de créer des cartes qui n'utilisent pas les règles traditionnelles de la cartographie. Donc, il y avait des règles établies, par exemple, surtout pas d'échelle, aucune échelle cohérente dans une carte, surtout pas de légende, des signes ambigus. On ne sait pas trop si c'est une ville, si ce signe-là représente une ville ou représente une montagne, etc. Et aussi placer sur des cartes des choses qu'on ne place pas habituellement sur une carte parce qu'elles sont transitoires. Par exemple, un nuage, une comète, une odeur, etc., etc. Donc, pousser très loin l'idée de carte.
Tu parlais tout à l'heure de la cartographie sous-jacente que sont leurs propres lecteurs. C'est un espoir pour toi qui aime la cartographie, qui se fasse leur géographie ?
Non, je m'en fous, en fait. Non, c'est pas un espoir, mais naturellement, je crois qu'on a l'esprit maintenant, encore une fois, je le disais, à force de fréquenter et de plus en plus, en plus avec les GPS, maintenant on sait précisément où on est sur le globe, etc. On a de plus en plus une vision en survol de la réalité. Et quelque part, c'est bien de la casser, cette vision-là aussi. Et je suis assez d'accord. Quoi. Par exemple, l'onirisme se prête assez mal à des cartes bien établies. Il faut un monde dans l'onirisme, et on a besoin d'un monde mouvant, d'une espèce de banquise mouvante. Quoi. Alors les distances, tout ça, on s'en fiche un peu. Mais d'ailleurs, des Féeries pour les Ténèbres, où on a une carte pourtant relativement traditionnelle, relativement carte de fantasy, il n'y a aucune échelle. Hein. Les échelles sont totalement incohérentes.
Hein. Je te voyais hocher la tête, Justine. T'es d'accord avec ce que dit Jérôme ?
Oui, franchement, j'aime beaucoup déjà tes idées de cartes mouvantes, etc.
Avec merci.
Je t'en prie. Mais ce que j'aime pas actuellement avec les cartes, alors que j'aime énormément les cartes de fantasy, les cartes imaginaires, oniriques, etc., c'est il y a forcément un moment où ça devient moche. C'est-à-dire même quand on est en pleine forêt, où on est dans son truc, on cueille des champignons comme un crétin, on est tout content. Si on regarde une carte, il va y avoir une ville laide. On le sait, il va y avoir une vieille route. En fait, on peut pas. Si c'est des cartes relativement réelles, on peut pas sortir ce qu'on n'a pas envie de voir. C'est vrai. On est obligé de les subir. En fait, ça m'énerve. Ça m'énerve surtout qu'en tant qu'écrivain. Ce que j'ai envie de mettre sur le papier et de lire, c'est des choses qui font plaisir et des choses qui ont fait plaisir aux personnes d'écrire dessus. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave.
On a tous compris. sur cet aspect, justement, à la fois ne pas faire subir au lecteur une carte et à la fois parfois l'onirisme n'a pas forcément besoin de cartes, quelle est ta réaction à toi ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas trop décrire non plus parce qu'on... On fait de l'imaginaire et justement, il faut respecter l'imaginaire des lecteurs. Et je pense que chaque lecteur, je pense que si on décrit trop, le lecteur ne peut plus forcément s'approprier l'univers, l'œuvre, l'histoire, les personnages. Il peut plus la personnaliser. Au début de ma carrière d'écrivain, j'avais tendance à vouloir tout décrire. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était pas ce qu'il y avait de mieux et qu'il valait toujours mieux, même dans la description d'un personnage, il ne faut pas trop décrire. Il faut laisser à chaque lecteur la possibilité de personnaliser ce qu'on lui propose. Et les cartes, c'est pareil. Ça, je pense que même si il y a de très jolies cartes, et je trouve ça très très brillant de faire des cartes, moi, ce n'est pas mon option. Ça me viendra peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je préfère rester dans le flou parce que ça permet une plus grande liberté. Et pour moi, par rapport à ce qui va se passer, et par rapport au lecteur, par rapport à ce qui va s'approprier.
Et en même temps, sur le site de l'Ange du Chaos, il y a un petit glossaire et il y a des croquis des personnages.
Oui, alors les croquis, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est Julien Delval, parce que je dessine aussi comme une patate. Et quant au glossaire, oui, j'ai essayé d'expliquer ce que c'était que le monde des plans, parce que mon éditrice m'avait tanné pour ça, mais ce n'est pas un truc que j'ai forcément envie de faire naturellement.
Brandon Sanderson, vous êtes d'accord que parfois on peut subir une carte et que ce ne soit pas forcément un atout pour le livre.
Yes, certainly.
Oui, effectivement, parfois les cartes n'apportent rien. Parfois la vision de l'artiste, comme on dit, n'est pas un avantage. Et dans la fiction, c'est vrai qu'il ne faut pas donner trop à vos lecteurs, parce que en tant qu'écrivain, on participe à la, en tant que lecteur, pardon, on participe à la fiction et on veut avoir la possibilité d'imaginer vraiment les personnages. Bon, par exemple, moi j'ai fait un peu d'art conceptuel pour Way of Kings, qui était des dessins de personnages. Moi je les ai faits pour m'aider à visualiser, pour ainsi dire, pour voir à quoi ressemblaient les habits, à quoi ressemblaient les équipements, ce type de choses. Et j'ai joué un petit peu avec certaines idées. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais les mettre dans le livre? Mais je me suis dit, non, c'est trop d'illustrations, c'est trop illustratif. Je ne voulais pas donner ça tout prémâché en fait au lecteur. Et ce que j'ai fait plutôt, c'est que, bon, par exemple, il y a un personnage qui est historien, historienne en l'occurrence, elle dessine les créatures, elle fait un bestiaire en fait, et le fait est que dans le livre, donc, il y a une créatrice, et c'est l'imagination d'une personne, d'un personnage. Et je n'ai pas voulu imposer non plus ça, mais ça aurait peut-être été encore trop. Et il peut se passer la même chose, je pense, avec la cartographie, disons. J'aime bien les cartes, hein. J'aime bien les utiliser. Cela me permet. On dit qu'une image peut parler beaucoup plus que les mots. Je pense que c'est la même image en français qu'en anglais. Et ça peut aider beaucoup. Ça, c'est la ville dans Mistborne et des brumes. C'est une carte très détaillée, comme vous pouvez le voir, une carte de la ville. L'idée derrière cette carte, c'était d'ouvrir le livre, de la trouver, et je voulais transmettre la sensation que vous pouvez avoir dans un tel monde grâce avec la carte. Et c'est pas important, je veux dire, on peut lire, et moi j'ai écrit tout le livre sans avoir cette carte sous les yeux. On a fait la carte après, grâce aux descriptions du livre, ça c'est pas très important. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir une ville qui ressemblerait à une ville des années 1820. Il y a beaucoup de fantasy qui est médiévale. Moi, je voulais dire, non, c'est pas médiéval. Là, c'est vraiment à l'orée de la révolution industrielle. C'est de la fantasy, mais c'est ce n'est pas. Bon, ça ne consiste pas à chevaucher des destriers. Je voulais vraiment transmettre cette image-là. Et j'ai recherché des cartes des années 1820 de Londres et de Paris. Et on l'a utilisé avec mon éditeur pour créer une ville de fiction qui est censée transmettre cette sensation du début du 19e. Et donc. Quand vous prenez la carte, vous ne dites pas, tiens, c'est la campagne du 15e. Là, on se dit, tiens, on est proche de l'univers de Dickens.
De Robert Jordan, il y a des cartes sur la route du temps. Est-ce que ça vous a aidé pour l'écriture des tomes suivants?
Oh oui, tout à fait, ça m'a beaucoup aidé. Je les ai utilisées à l'envi, hein, quand j'ai travaillé sur ces nouveaux volumes. La roue du temps, c'est 14 tomes maintenant, et ce sont des gros tomes. Quand vous faites quelque chose de cette ampleur, il faut vraiment vous appliquer une discipline très ferme, parce que sinon les livres ne vont pas, vont se contredire les uns avec les autres. Et les fans adorent les cartes. C'est toujours un grand moment. En général, dans chaque livre, il y a une nouvelle carte de ville ou de lieu. Ça les aide à visualiser aussi ce monde dans lequel ils sont entrés il y a tant de temps. Moi, j'aime beaucoup les utiliser, oui.
Qui est dans l'anthologie des Utopiales, pour le coup, où il n'y a pas de carte non plus. Ça se passe, on ne va pas tout déflorer, mais ça se passe sous terre, avec des tas de tunnels. Et je ne me souviens pas que les héros aient de carte non plus.
Non, ils n'ont pas de carte. Et puis surtout, ce sont des couloirs mouvants. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand les choses sont bien ancrées dans le réel, j'ai du mal, comme par exemple arriver à l'heure à une table ronde. Mais. Oui, il n'y a pas de carte. Et c'est vrai, en fait, ce que tu dis, j'avais pas réfléchi à ça. Les gens qui y vivent n'ont jamais essayé de faire de cartes. C'est curieux.
C'est-à-dire, il y a des clapisvores qui creusent et qui réparent des tunnels, mais même eux n'ont pas de carte autour de la ville.
Mais je pense que c'est une façon de... Enfin, créer des cartes, c'est peut-être lié à une façon de voir les choses. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on a des distances, on a des choses fixes, etc. Mais quand on vit peut-être de façon beaucoup plus archaïque ou beaucoup plus barbare, il y a des terrains qui deviennent tabous. Je sais pas, il a pu se passer une peste, un charnier, une bataille, etc. Donc on n'y va plus. Donc il n'existe plus dans l'imaginaire commun. Ou même dans la vie réelle des gens. Je pense que c'est vraiment lié à une façon d'appréhender le monde tout autour de soi.
Vous êtes d'accord avec ça, Brandon Sanderson ? Je voyais hocher la tête.
Oui, c'est très intéressant de voir à quel point l'usage ou le non-usage d'une carte peut vous aider à faire passer un message. Pour les écrivains et pour les lecteurs, il faut garder cela en tête. Une carte, on doit les utiliser juste parce qu'elles apportent quelque chose à l'histoire, pas simplement parce qu'elles sont cool ou parce qu'elles sont belles.
Le petit silence. On arrive gentiment à la fin de cette conférence. Est-ce que quelqu'un a une question et peut-être on peut vous demander aussi si vous, en tant que lecteur, vous aimez ou non avoir des cartes. Ou en tant qu'auteur, je vois par exemple Lionel Davoust. Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Oui, là-bas, monsieur.
J'aurais juste voulu avoir votre avis sur l'idée, c'est les éditions Memnos qui ont sorti des guides touristiques d'endroits imaginaires. Et j'aurais voulu savoir... Enfin, d'endroits imaginaires, donc de livres, des guides de ville. Et j'aurais voulu savoir, en tant qu'auteur, quel était votre ressenti par rapport, j'allais dire, justement pas des cartes que vous auriez fait, vous auriez travaillé avec l'éditeur, mais quand quelqu'un s'approprie votre monde pour en faire, comme là, un guide touristique, c'est-à-dire quelque chose qui est une cartographie, mais qui est une cartographie extérieure à l'auteur. C'est-à-dire, on prend ce que l'auteur a mis, et on en fait une carte, on en fait un guide. J'aurais juste voulu savoir ce que vous en pensiez de l'idée, si ça vous plaisait pour vos œuvres ou pas.
Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre ? Jérôme ?
Je sais pas, ça dépend la quantité de droits que je touche sur le truc, quoi, en fait. Si c'est joliment fait, pourquoi pas ? À part ça...
Ah oui, c'est intéressant. Là, vous nous parlez de quelque chose qui donne probablement lieu à une commande et puis des droits d'auteur aussi. Hein. Mais il y a aussi les cas où ce sont les fans qui créer les cartes, des choses comme ça. Moi, je trouve ça super quand un fan vient vous voir et vous dit « Ah bah, j'ai fait une carte à partir de votre livre. » Moi, je trouve ça super.
Il y a des cartes pour le coup du disque monde, même si Terry Pratchett, lui, n'en fait pas.
Yes, exactly.
Oui, c'est vrai. Oui. Et je crois qu'il a fait publier une carte officielle. Il ne l'a pas inclus dans un des volumes, mais les fans ont créé des tonnes et des tonnes de cartes inspirées de son œuvre. Hein.
Oui, je pense que je serais assez curieux de voir, enfin, si c'est bien fait évidemment, je serais assez curieux de voir justement quelle est comment un lecteur peut s'approprier mon univers et ce qu'il peut en faire. Mais c'est vrai que naturellement, en fait, je serais tenté de partir à l'opposé parce qu'une carte, c'est d'écrire. Et moi, je serais plutôt pour essayer de décrire de moins en moins ce qui se passe, enfin de moins en moins, non pas ce qui se passe, mais l'univers. Je pense à, par exemple, un auteur comme Dashiell Hammett. Il y a très très peu de descriptions dans ce qu'il fait, que ce soit des personnages ou que ce soit des lieux, et tout passe par les dialogues et par l'action. Et moi, je suis plus attiré par essayer de travailler comme ça. Je ne dis pas que je le ferai forcément bientôt, mais qu'au contraire, essayer de tout cartographier, de tout décrire.
Justine.
En tant que c'est un petit peu ce qu'on disait, si c'est un lecteur qui arrive avec quelque chose qu'il a fait, évidemment ça va me toucher beaucoup, ça va m'intéresser parce que j'aime beaucoup quand il y a des lecteurs qui viennent et qui racontent ce qu'ils ont lu et en fait on n'a pas du tout mis ça dans le livre et ça c'est vraiment un truc qui est génial. parce qu'on voit que ça marche tout seul en fait et que les gens enfin rajoutent leur propre imaginaire dessus. Après, je pense pas que le monde de Chien d'Urne se prête beaucoup à ça. Et enfin, moi, j'ai des idées. Je sais que le château des Brumes il part un petit peu sous la falaise, etc. Mais personnellement, j'ai pas du tout envie de voir ça posé sur le papier de façon fixe, encore une fois.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Lionel Davoust, est-ce que tu aimes les cartes, toi, auteur de fantasy? Je te prends à partie, t'es dans le...
Bah oui, moi j'adore les cartes, surtout qu'en plus j'ai fait une formation en système d'information géographique. Donc, je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant, je trouve, en fantasy, c'est que souvent on a des mondes qui sont médiévaux ou anciens, et je trouve, enfin ça dépend, bon, il y a évidemment des contre-exemples, mais on se pose finalement assez rarement la question de la validité de la représentation. C'est-à-dire quand on ouvre un bouquin de fantasy qui, en général, se passe dans un monde médiéval, cette carte-là, elle est quasiment aussi exacte et aussi fiable qu'une carte du monde moderne, ce qui n'est dans l'absolu pas possible, à part dans certains cas, si par exemple c'est les elfes qui gardent les informations depuis longtemps et qui ont donc fourni cette carte-là, donc on peut imaginer qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais cette vision de l'espace, effectivement, est très descriptive, elle est assez rarement remise en cause. Je trouve ça, il peut y avoir un truc intéressant sur justement le fait que ces témoins-là peuvent être trompeurs. En ce qui me concerne, je trouve qu'il y a énormément de partis pris sur la cartographie qui peuvent être intéressants à être mis en cause. Du coup, tu me poses la question. Hein, donc, moi, je fais beaucoup de cartes, même des navires. Dans l'Aventurier Dragon, par exemple, il y a eu des illustrations qui ont été faites sur les navires que j'utilise dans le truc. Et c'est parti des croquis que j'ai envoyés à l'artiste en lui montrant, en gros, bon, alors je dessine comme un enfant de 5 ans, donc il a d'ailleurs fait un boulot assez admirable. Et une autre question que je m'étais posée dans Evanégir, par exemple, c'est la question du nord. Toutes les cartes, en général, partent d'un point, voilà, il y a forcément un point cardinal, le nord, c'est là, et ça sert de point de repère. Dans Evanégir, par exemple, il y a deux points cardinaux qui sont séparés. Il y en a un plus ou moins dans l'hémisphère nord et un plus ou moins dans l'hémisphère sud. Et avec un peu de trigonométrie, avec des boussoles à deux aiguilles, finalement, un des jeux que je me suis fait, c'est qu'on peut finalement avoir une sorte de GPS primitif si on peut faire un peu de trigonométrie avec, en calculant les angles entre l'écartement des deux aiguilles. Enfin, je trouve qu'il y a des tas de jeux très rigolos à faire sur la façon, ne serait-ce que d'appréhender l'espace et ce que la fantasy permet de faire. Et la façon dont on appréhende l'espace, ça détermine beaucoup la vision que les gens ont du monde autour d'eux. Et voilà. Je vais arrêter parce que je suis bavard.
Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, presque déconstruire la carte.
Oui, 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 ça participe.
Oh!
Wow. Désolé. Oui, ça participe de ce que je disais tout à l'heure, tout à fait, ouais, d'avoir des systèmes relativistes sur une carte. C'est la même idée que la représentation de l'escalier qui ne serait plus une représentation physique de l'escalier, mais la représentation de l'effort qu'on doit produire pour grimper l'escalier. Donc on a des marches qui seraient légitimement de plus en plus hautes, et à la fin qui seraient immenses, puisqu'on a de plus en plus d'efforts à fournir pour passer à la marche suivante. On peut tout à fait produire ça sur une carte. Et d'ailleurs, effectivement, les cartes anciennes sont des cartes relativistes. Et c'est vrai que la précision topographique, géographique qu'on trouve sur les cartes en fantasy parfois fait sourire parce que c'est très très anachronique en définitive.
Ouais. Morgan Sanderson voulait réagir.
Yeah. Oui, je voulais dire effectivement que, encore une fois, si on en revient à Tolkien, qui a fondé disons, l'epic fantasy, mon genre, le genre dans lequel j'évolue. Si vous regardez les cartes dans le Bilbo le Hobbit, c'est très vague. Il nous dit, bon, ça, cet endroit se trouve à nord-nord-ouest de cet autre endroit. Et je pense que les cartes sont assez intéressantes parce que, en tant que nous, enfin, humains, on crée des cartes naturellement, mais elles ne sont pas nécessairement très exactes. Et dans les livres de fantasy, les cartes ne sont pas trop exactes. Je pense que c'est le but. Ici, c'est intéressant. C'est une carte qu'on utilise. C'est une carte qui a été peinte par un peintre qui, dans le livre, s'est rendu dans ce lieu et on l'a fait inexact, on l'a peint, enfin on l'a reproduit de manière inexacte à dessein, si j'ose dire. Parce que ce peintre s'est promené dans ce lieu et puis il est allé dans la ville après, puis il a créé une représentation un peu idéalisée de ce lieu. Et on peut faire des choses intéressantes avec cette inexactitude quand elle est à dessein, encore une fois. Ici, je ne sais pas si on voit bien ce dessin, c'est une coquille et c'est un soldat qui a redessiné son camp sur une petite surface pour s'y retrouver dans son camp. Et là, dans l'histoire, c'est un savant, après un universitaire, qui a rajouté des écritures dessus parce que le soldat ne pouvait pas écrire. Mais en l'occurrence, là, le soldat, ça marche très bien pour lui parce que, et puis ça marche très bien pour le lecteur également parce que le lecteur sait où le soldat va s'entraîner, où il dort, où il mange. Donc c'est intéressant, même si c'est un peu inexact.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Oui, monsieur juste devant.
Voilà. Merci. Bonjour. Orson Scott Card raconte qu'un jour il a trouvé dans un grenier un vieux vélin et qu'il a commencé à écrire une carte dessus et que, en fait, au fur et à mesure où il créait la carte, il a commencé à créer une histoire avec. Et pour finir, il a fait un livre sur cette carte. Qu'est-ce que vous pensez de la cartographie comme support pour la créativité?
Alors, qui veut répondre là-dessus? Jérôme, tu voulais faire des histoires
Merci,
de fantasy avec que des cartes.
Tu es gentil. Non, là, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Pour le son du monde fluctuant, comme j'avais vaguement besoin d'une géographie, je suis allé au plus simple. J'ai écrasé ma main sur une feuille, j'ai fait le tour comme un gosse. Et je me suis dit, tiens, ça fait une chouette. Ça fait des fjords, quoi. C'est une jolie île. Donc, j'ai procédé comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut avoir des cartes qui ont des significations symboliques très très fortes, quoi, qui dépassent le simple processus de construction géographique. J'aime bien l'idée, par exemple, d'avoir des cartes qui empruntent, d'avoir des formes de pays ou d'îles qui empruntent des parties du corps. Que le corps, il y a ça dans le son du monde fluctuant d'ailleurs, puisque le monde des morts dans le son du monde fluctuant est en fait un cadavre couché, un gigantesque cadavre couché. Donc la forêt constitue d'ailleurs le bas-ventre, la toison pubienne, etc. Enfin, ça répond pas trop à votre question. Donc, si, bon, merci.
Est-ce que quelqu'un veut réagir aussi sur cette question?
J'ai vu cette carte. Cette carte, ce n'est pas une carte dans un de mes livres. C'est une carte que j'ai vue en ligne. Parfois, il y a des cartes qui représentent quelque chose de très abstrait. Ça, c'est la carte du succès que quelqu'un a dessiné. Là, on voit la porte des idéaux, la frontière ou la montagne du manque de préparation. Et puis là, il y a le tunnel de la vérité. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai stocké ça sur mon ordinateur et je me suis dit, tiens, un jour, j'aimerais bien avoir une carte un petit peu plus comme ça. Alors bien sûr, je vois des choses parfois qui m'inspirent. Parfois, j'ai regardé des reproductions ou des formes dans les plafonds, par exemple. Et là, je me suis dit, tiens, cette forme-là, ça, on dirait un continent, ça c'est intéressant. C'est, par exemple, je vais reproduire cette forme et puis l'utiliser après. Donc visuellement, oui, j'ai beaucoup d'inspirations qui me viennent comme ça.
Dites-nous.
Bonjour. Je voulais juste vous demander s'il a déjà été publié un atlas géographique d'un monde imaginaire, quoi, en fait. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça?
Je crois en avoir vu une fois. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que j'en ai vu un en vente. En général, j'ai vu des bestiaires hein, publiés de bestiaires créés à partir de livres de fantasy, mais il y a un guide qui a été publié, Dian and Jones, le guide pour s'en sortir dans la fantasy, et qui montre une parodie finalement d'un territoire, d'un monde de fantasy. Je crois que j'en ai vu un, mais enfin un atlas, mais je ne suis pas certain.
Ça se fait constamment, il me semble, ce genre de truc, non ? Enfin, moi, j'ai jamais fait, tu n'as jamais fait non plus.
D'atlas ?
Un atlas.
Non. Non, mais il y en a beaucoup, ouais, en JDR, etc.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Ça, effectivement, comme disait Brandon Sanderson, je suis quasiment sûr qu'il y a un atlas qui est paru aux États-Unis avec des cartes de tous les grands mondes de fantasy, les plus connus, parfois dans des versions retravaillées. Puis on peut citer aussi, il y a les cartes de Pratchett, il y a la carte de l'encre, la carte d'Ankh-Morpork, il y a la carte du disque monde en entier aussi.
Est-ce que quelqu'un a une petite question encore ? Une fois, deux fois, trois fois ? Bon, eh ben on va vous remercier beaucoup. Merci à tous d'être venus. Vous allez pouvoir les retrouver en dédicace tout de suite avec Jean de Croque-Méville, Pougeot et Francescano. Exactement. Et puis si vous restez là, vous allez avoir une conférence sur les symboles jouables, la création d'univers interactifs pour le jeu vidéo et de l'autre côté, l'imagination a-t-elle des limites ? Merci, bonne matinée.